Sud Radio, service compris.
Véronique Jacquier.
Service compris, l'émission qui vous aide, qui vous propose des solutions pour vivre mieux, pour aller mieux dans votre vie quotidienne. On aborde le sujet de l'addiction au cannabis avec le professeur Boyan Christophorov. Bonjour professeur.
Bonjour Véronique.
Vous êtes donc professeur de médecine, ancien chef de service interniste à l'hôpital Cochin et vous êtes l'actuel président de la société d'addictologie francophone. Donc à ce titre, vous êtes bien placé pour nous parler de ce fléau qu'est l'addiction au cannabis. Donnons quelques chiffres pour commencer, avant évidemment d'accueillir les auditeurs de Service Compris sur Sud Radio qui auront bien des questions à vous poser, parce qu'il y a des sacrées distinctions à faire quand même. La France est l'un des plus gros pays où l'on trouve le plus de gens qui fument le cannabis, 700 000 personnes qui fument tous les jours, 1 400 000 personnes qui disent fumer régulièrement. C'est beaucoup par rapport à d'autres pays d'Europe.
C'est énorme, oui, c'est énorme.
C'est énorme, on l'explique comment déjà?
On n'a pas une explication claire, mais il y a les habitudes, il y a aussi les liens avec le Maghreb. Et puis il y a des facteurs confus comme ça, qui sont une habitude.
Alors quand on dit fumer du cannabis, ça se présente comment le cannabis? Il y a plusieurs façons de le fumer. Moi je suis une néophyte, hein. Je le dis aux auditeurs de Service Compris sur Sud Radio, je n'ai jamais fumé de cigarette et jamais de pétard ou de cannabis comme on dit.
On peut le fumer mélangé à du tabac, d'ailleurs ça accroît le risque, ça ajoute le risque du tabac. On peut le prendre aussi par d'autres moyens, c'est de confiture, des tas de formes, c'est très, très facile.
Des tas de formes. On voit nos ministres de la Santé successifs dire halte rouge au tabac, halte rouge, alerte rouge plutôt, au tabac, alerte rouge à l'alcool. Et est-ce qu'à votre avis, il y a suffisamment de campagnes de prévention pour dire le cannabis est un danger, on va y venir hein?
Il y a des campagnes, mais il faut dire que l'alcool ou le tabac sont de beaucoup plus grands prédateurs. Je vous rappelle, le tabac, une soixantaine de milliers de morts par an, l'alcool, une cinquantaine de milliers de morts par an. Le cannabis, c'est beaucoup plus modeste.
Oui, mais est-ce qu'on peut quantifier le nombre de morts à cause du cannabis? Non,
on ne peut pas. Alors d'autre part, si vous voulez, le cannabis est quelquefois la porte d'entrée dans la toxicomanie.
Voilà.
Et du cannabis, on passe à la cocaïne, ensuite à l'héroïne, et là, il y a une mortalité.
Il y a plus d'hommes hein, qui fument du cannabis. 3,4% des hommes entre 18 et 64 ans contre 2% de l'ensemble de la population adulte. Pas d'explication non plus?
Si, bah quand même, le tabagisme, le fait de fumer est un tic masculin. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui se mettent à fumer des cigarettes pour signifier leur égalité.
Alors rappelons que le cannabis est une substance illicite, punie donc par la loi. La possession, la production, la vente de cannabis, l'usage bien entendu, l'usage jusqu'à 1 an de prison et 3 750 € d'amende, le trafic jusqu'à 20 ans de prison et 7,5 millions d'amende. Chaque année, 122 000 interpellations ont lieu pour usage de cannabis et 15 000 pour la revente. Évidemment, maintenant, on aborde l'impact du cannabis sur le psychisme. Vous l'avez dit, c'est la porte d'entrée, le cannabis, pour toucher après à d'autres drogues.
Il faut bien distinguer deux choses, si vous voulez. Nous pouvons parler d'abord des effets sur la santé, et puis un autre problème, qui est un problème de législation, de décision politique, qui est le plus ou moins grande pénalisation. Alors, le cannabis est une substance récréative. Ça donne un bien-être, une euphorie, on plane, une désinhibition, on se sent moins bridé. On a des rêves, des excitations souvent de type érotique. Il faut dire aussi que c'est un antidouleur. Alors, il y a tout un lobby de gens qui veulent introduire le cannabis comme antidouleur. Ce n'est pas indispensable.
Mais c'est testé dans certains pays, c'est entré en vigueur pays.
Oui,
hein.
Tout à fait.
Le cannabis en tant qu'antidouleur.
Oui, mais enfin, on peut aussi s'en passer, c'est pas indispensable.
Oui. J'imagine qu'on aura des questions là-dessus, hein, via le 0826-300-300. Vous avez la chance d'avoir un professeur de médecine à votre disposition. Vous faites vite ce numéro pour être avec nous. Il y a notre boîte mail aussi, contact@sudradio.fr, si vous nous écoutez en douce au travail. Donc, avant d'accueillir Jacques, qui a déjà une question à vous poser, professeur Boyan Christophorov, vous l'avez dit, les effets, l'euphorie, la désinhibition, les rêves, les excitations, bref, tout ce qui peut être très agréable, antidouleur, mais aussi, il n'y a pas des choses plus méchantes pour l'organisme, de l'hypertension,
mais évidemment, non ? Évidemment, ça accélère le cœur, ça fait grimper la tension artérielle, ça fait baisser la tension, hein, les accidents On recherche le cannabis chez les gens qui sont auteurs d'accidents. Et puis on inhale du goudron, on inhale de l'oxyde de carbone. Quelquefois, il y a des gens qui estiment que 3 pétards par jour, c'est l'équivalent d'un paquet de cigarettes.
3 pétards par jour, l'équivalent d'un paquet de cigarettes?
Oui.
C'est énorme, hein?
Tout à fait.
On ne le dit pas suffisamment, ça. Heureusement, on le dit sur Sud Radio.
Bien sûr. Et puis alors, il y a le déclenchement de troubles psychiques. Ça ne veut pas dire que ça crée des troubles psychiques toujours, mais des gens qui étaient prédisposés, qui étaient, eh bien, leur maladie mentale peut exploser à l'occasion de l'usage du cannabis. Voilà. Bien entendu, les rendements scolaires s'effondrent quand il s'agit d'écoliers. Les gens se marginalisent, se prostituent. Moi, j'ai un patient qui est un écolier de terminale.
Qui se prostituait.
Qui se prostitue pour
pouvoir fumer du cannabis.
Voilà.
Voilà. Donc, on alerte les parents, bien entendu, et ils sont les bienvenus s'ils ont des questions à vous poser, professeur Boyan Christophorov. Le 0826-300-300, c'est le numéro qu'a fait Jacques, qui a une question à vous poser, bien sûr. Bonjour, Jacques.
Bonjour à tous, bonjour professeur.
Bonjour.
Je vous appelais, alors j'écoute avec beaucoup d'intérêt tout ce qui se dit. En même temps, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses entre ce que vous dites et ce qu'on peut lire sur Internet qui sont différentes. On a parfois un peu du mal à s'y retrouver finalement, à savoir qu'est-ce que la réalité. Vous parliez tout à l'heure des dispositions qui sont prises aux États-Unis, notamment pour de la consommation médicale, on va dire. Moi, j'avais une question qui était plutôt relative à tout ce qui va être... à partir du moment où on dit qu'il y a addiction, donc déjà la question c'est de savoir quand est-ce qu'on est addict au cannabis. Et puis, la deuxième chose que je me demandais, c'est finalement... les effets d'une addiction au cannabis, est-ce qu'ils sont différents d'une personne à une autre? Et est-ce qu'il y a un moment où il faut s'en inquiéter? Voilà, parce que bon, moi je fais partie des gens qui disent que les consommateurs de cannabis ne sont pas forcément des addicts et ça ne pose pas forcément un problème de santé. Mais je sais, j'ai une amie qui, justement, vous parliez de maladie mentale. Eh bien, qui a développé une maladie mentale à cause de sa forte consommation au cannabis. C'est pour ça.
Donc
que
vous êtes plutôt
si
pour une certaine tolérance envers le cannabis, Jacques, quand on vous écoute. Et finalement, votre question, c'est la question fondamentale, professeur Christophorov, c'est où est la frontière entre addiction et pas addiction?
Alors, il faut dire que le cannabis donne un faible niveau d'addiction. C'est l'une des substances... peut-être la substance dont il est le plus facile de se détacher. Il y a une faible addiction physique, très faible, et également une faible addiction psychique. Bon, ça n'empêche pas qu'il est nocif et que les gens qui le consomment, addicts ou pas, se font du mal à eux-mêmes.
Oui, mais quand vous nous donnez l'exemple de ce patient de 17 ans qui était en terminale et qui était obligé de se prostituer pour fumer son cannabis, bah là, quand même, c'est une sacrée addiction. On tombe quand même dans le piège.
C'est vrai, mais c'est vrai pour le tabac, pour l'alcool, etc. Tabac et alcool sont beaucoup plus forts en matière d'addiction que le cannabis.
Alors, en tant que professeur de médecine, pour répondre à la question de Jacques, où est la ligne jaune quand on fume du cannabis?
Il n'y a pas de ligne jaune clairement définie. La notion d'addiction s'explique par le fait que quand on arrête, on va mal. Eh bien, le cannabis, on peut arrêter sans aller très mal. On a envie, c'est comme on a envie d'aller fumer une cigarette, mais c'est pas plus que ça.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a peut-être une certaine forme de tolérance chez les jeunes, non? Jacques, d'où l'objet de votre question?
Oui.
Oui.
Oui, excusez-moi, tolérance. J'ai pas bien compris votre question.
Non, je disais, par rapport au sujet que vous soulignez et quand vous demandiez où était la frontière entre addiction et pas addiction et on sentait chez vous, bah voilà, le cannabis, oui, je veux savoir quand est-ce qu'on est addict ou pas, mais j'ai pas tellement le sentiment que c'est très méchant. Le professeur Boyan Christophorov nous dit, effectivement, il n'y a pas de notion de sevrage chez le cannabis, c'est
non,
ça c'est,
on, ah, Il n'y a pas de syndrome de sevrage. Vous avez raison, Véronique, il n'y a pas de syndrome de sevrage.
Voilà, il n'y a pas de syndrome de sevrage, d'où le fait que les jeunes, notamment, ont l'impression que c'est pas bien méchant.
Voilà, Jacques. L'idée, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut s'en inquiéter.
Là, on est parents, par exemple, on a des enfants qui sont au lycée, on les voit fumer 2-3 joints en cachette. Qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce qu'on les sermonne?
Je crois qu'il faut les sermonner d'emblée parce qu'ils peuvent devenir, sans être des addicts, ils peuvent devenir des usagers réguliers et de ce fait détériorer leur capacité cognitive.
Mmh. Donc mentale, psychique, tout ce qu'on a évoqué.
Tout, absolument.
Jacques, vous avez la réponse à vos questions ?
La réponse à la question, merci beaucoup.
Bon, passez une belle après-midi à l'écoute de Sud Radio. Jacques, on accueille Antoine qui a fait le 0826-300-300. Bonjour Antoine.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour.
Bonjour, oui. Ben, écoutez, moi je suis un peu désolé quand même du discours de la personne, du professeur de médecine qui de plus est addictologue, parce que bon, on entend encore les mêmes choses, c'est-à-dire ben, les 1% de cas qui sont critiques, ça fait la généralité. Voilà, moi je suis cadre informatique, je consomme depuis que j'ai 15 ans, j'ai consommé énormément avec en y repensant de façon très abusive pendant mon adolescence. Et maintenant, je suis sur un usage qui est plus, on va dire, contrôlé, régulier. Je choisis les moments où je consomme. Voilà. Donc,
mais combien de fois par jour ? Combien de fois par jour ? Quand vous dites un usage contrôlé ?
Ça peut être une à deux fois par jour, ça peut être une seule fois par jour, ça peut être à des moments je vais me faire une période pendant une semaine à 10 jours où je ne vais pas consommer. Ça va dépendre des gens avec qui je suis, si les gens consomment. Voilà, ça dépend de beaucoup de paramètres. Disons que moi-même, je ne sais pas si je suis moi-même dans une addiction. Je ne pense pas forcément être dans une addiction du fait de mon usage de cannabis. Voilà.
Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Effectivement, il y a des consommateurs que l'on peut taxer de raisonnables, de mesurés. Mais est-ce que vous prenez le volant quand vous avez fumé ? Dites-moi.
Non, je fais attention, effectivement.
C'est comme l'alcool.
Volant, je vais attendre 3-4 heures, je vais prendre conscience de mon état. Je suis responsable dans mon usage, comme je vais être responsable dans mon usage d'alcool, par exemple, ou d'autres substances, comme le tabac ou d'autres. Bref, mais ce qui peut avoir un effet sur ma psychoactivité, sur mon corps, je vais faire attention et je vais être raisonnable dans mon usage. Et ce qu'il faut, c'est qu'il faut expliquer aux gens comment user au mieux des produits. J'entendais parler le professeur qui disait que le cannabis était extrêmement qui délivrait beaucoup de CO2. Voilà, maintenant il y a la vaporisation, il y a l'ingestion, il y a d'autres méthodes d'usage de cannabis, mais on peut pas en parler parce que c'est interdit, alors que
les gens pourraient faire une
utilisation plus saine du cannabis.
Tout le monde en parle, je ne vous ai jamais interdit d'en user. La situation est du même type que dans l'alcool. Tout le monde peut boire de l'alcool. Si on en boit trop et trop souvent, on n'est pas bien. Il en est ainsi du cannabis. Et simplement, il faut exposer les inconvénients qu'il y a et ne pas les cacher au nom d'une consommation libérale.
Mmh. Et en plus, vous, Antoine, vous êtes un adulte, mais le danger quand même est grand chez les jeunes, hein, chez les mineurs. Chez les jeunes de 17 ans, il y a presque un mineur sur deux qui a déjà testé le cannabis. C'est quand même pas rien. On l'a vu, professeur, vous l'avez dit, si on a des fragilités psychologiques, ça peut les aggraver. Il y a quand même des jeunes qui sont en échec scolaire parce qu'ils fument du cannabis. Moi, je me fais la mère tape dure aujourd'hui, mais enfin, franchement...
Non, mais vous avez raison, mais il ne faut pas non plus exagérer. Il ne faut pas exagérer. Tous les adolescents tâtent du cannabis. Ça, c'est absolument général. Mais c'est l'usage plus régulier qui peut prêter à discussion.
Mmh. Antoine, vous avez vu, le professeur de médecine fait la part des choses quand même.
Oui, tout à fait, il fait la part des choses. Mais bon, je trouve qu'il y a toujours une ligne qui est toujours une ligne un peu prohibitionniste. On est toujours dans l'interdit. Moi, par exemple, si je veux parler à mon médecin de cannabis, j'en ai eu l'occasion. Quand on parle de sa consommation de cannabis au médecin, les médecins ne sont pas informés. C'est tout de suite, non, il faut pas en fumer, arrêtez tout de suite. On n'est pas du tout dans la gestion de la consommation. Même le corps, certaines personnes du corps médical sont dans l'interdiction.
Mais
totale.
C'est une substance. Attendez.
Écoutez-moi une seconde. Je suis un partisan de la levée des sanctions. D'une certaine libéralisation. Donc je ne vous ai jamais interdit, c'est vous m'avez mis un masque qui n'est pas le mien.
Alors justement, comme on a Antoine qui est un consommateur régulier, et vous professeur qui êtes le président de la Société d'addictologie francophone, et qui, passez-moi l'expression, est assez cool sur le sujet, puisque vous dites je suis pour la levée finalement de la dépénalisation. Ça veut dire que la solution c'est quoi ? La contravention pour le fumeur qui est Antoine ?
Alors écoutez, la solution, c'est la décision des autorités et des politiques. Nous sommes en France sous les lois de 70. Les sanctions sont extrêmement sévères. Bon, le résultat, c'est que si vous voulez avoir de l'héroïne ou de la cocaïne, vous allez dans la rue, vous en avez en 5 minutes. Pour ce qui est du cannabis, alors il y en a partout. Les saisies que l'on fait ne sont pas en grammes ou en kilos, ils sont en tonnes. Il y a des camions entiers qui traversent la France pour porter le cannabis. Il y a des zones urbaines ou suburbaines qui sont entièrement bloquées par le trafic du cannabis. Les policiers n'osent pas y aller. On a à peu près le même effet que la prohibition aux États-Unis dans les années 30.
Oui.
Donc, devant une consommation aussi importante, une nuisance certaine, mais pas aussi grave que l'héroïne, je pense, c'est mon opinion, qu'on devrait lever cette sévérité de la loi, tolérer, dépénaliser l'usage, sans pour autant, en tout cas pas pour l'instant, car la France n'y est pas prête, l'autoriser officiellement, faire une régie d'État, faire des impôts dessus, etc., en quelque sorte vraiment légaliser l'usage du cannabis. Voilà ma position.
Antoine, qu'en pensez-vous ?
Je pense que c'est effectivement une bonne position, une bonne première approche. Qu'il faut mettre en avant, parce qu'il faut qu'on parle de réduction des risques aux usagers, il faut qu'on apprenne aux usagers à mieux consommer de la drogue. Voilà, c'est quelque chose qui peut être un discours.
Mais vous voyez, moi, ce qui me dérange un petit peu, Antoine, dans votre discours, c'est que vous parlez quand même de drogue et vous parlez de gestion saine de la drogue. Il y a quelque chose de complètement antinomique, professeur. Moi, je suis perdu entre vous deux. Hein.
Non, je suis. Vous avez tout à fait raison, Véronique.
Dire usage.
Oui, mais absolument.
L'alcool est nocif.
Le tabac est de loin le plus nocif. Le cannabis n'est pas bon. Alors, s'il faut absolument se droguer, vous mettez dans une situation particulière. Alors, il faut choisir la drogue. Quant à la réduction des risques, pardonnez-moi, ça s'applique à l'usage de l'héroïne et aux injections. La réduction des risques, ce sont les sites d'injection qui ont été ouverts.
Mais alors, on peut faire pas la du tout dans le cannabis. Sur le cannabis. Mais si, parce que par exemple,
Mais Antoine, vous n'êtes pas sensible aux arguments du professeur qui dit attention, le cannabis, il a des conséquences pour la santé et c'est
bien
pas
évidemment.
Rien.
Bien évidemment qu'il a des conséquences pour la santé, mais il a beaucoup moins de conséquences pour la santé que d'autres produits qui sont légaux. Vous l'avez dit vous-même, comme l'alcool et le tabac, par exemple, ou d'autres médicaments qui sont sur prescription. Donc,
Sur prescription, c'est autre chose. L'alcool et le tabac, je suis tout à fait d'accord avec vous. Simplement, je vous signale qu'en France, 5 millions de personnes vivent de l'alcool et 5 millions de personnes sont en consommation abusive. Vous voyez, c'est un problème énorme. Le tabac, on pourrait plus facilement sanctionner le tabac, mais vous voyez qu'il y a le trafic clandestin.
Merci Antoine pour votre question. On voit que c'est un sujet ô combien complexe de traiter. Mais la notion même d'addiction au cannabis, on voit qu'Antoine n'est pas d'accord. Allez, j'aimerais entendre des parents qui s'inquiètent pour leurs enfants parce qu'ils fument un peu trop. Que faire? Quel discours leur tenir? Vous avez un professeur de médecine à votre disposition, le professeur Boyan Christophorov. Vous faites vite le 0826 300 300 pour être avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio, service compris.
Véronique Jacquier.
Bienvenue, si vous venez tout juste de nous rejoindre sur Sud Radio, le service tout compris du professeur de médecine Boyan Christophorov. On parle de l'addiction au cannabis. Évidemment, professeur, ça fait beaucoup réagir via le 0826 300 300 avant d'accueillir Karen qui a besoin d'être conseillée. Professeur, le cannabis reste dans les urines, j'imagine, combien de temps ? Quand des gens provoquent des accidents, on est capable de savoir s'ils ont fumé ou pas.
Absolument. Il persiste jusqu'à 3 semaines.
Jusqu'à 3 semaines.
Dans la salive. Oui.
Ah, c'est important de le dire aux auditeurs de Sud Radio.
Ceux qui se présentent à l'entretien, à la visite médicale d'embauche.
Oui, il faut qu'ils fassent attention de ne pas avoir fumé avant, évidemment. On accueille Karen. Bonjour Karen.
Oui, bonjour Véronique. Je vous appelle en fait parce que je souhaiterais avoir des conseils. Je suis fumeuse de joints, de cannabis de temps à autre et je voulais savoir est-ce qu'il y a des associations, des organismes qui aident peut-être les gens un petit peu addicts. Est-ce qu'il existe un système de parrainage comme pour l'alcoolisme où un ancien addict s'occuperait de nous et pourrait éventuellement avec qui on pourrait discuter. Je voulais savoir si ce genre d'organisme existait.
Il n'y a pas l'équivalent des ligues et des associations anti-alcooliques, mais en revanche, on peut s'adresser à un tabacologue parce que c'est quelque chose qui est fumé. Et puis, il y a un certain nombre de consultations d'addictologie où l'on peut être pris en charge. En réalité, le sevrage du cannabis n'est pas très douloureux. Il est tout à fait possible, simplement comme pour le tabac est plus addictogène que le cannabis. Mmh. Mais comme pour le tabac, on a intérêt, une fois qu'on a mûri sa décision, qu'on a arrêté de fumer, qu'on a cessé d'acheter, qu'on n'a plus de cendrier chez soi, etc., eh bien on a intérêt à être suivi par quelqu'un. Par quelqu'un qui a l'habitude. Alors ça peut être un intervenant en toxicomanie, ça peut être quelquefois certains médecins généralistes qui ont l'habitude, qui vous suivent régulièrement et à qui vous pouvez, de semaine en semaine, dire vos difficultés et recevoir des conseils.
Karen, quand vous dites que vous êtes addict, vous fumez combien de joints par jour ou par semaine, je ne sais pas?
En règle générale, je fume un joint par jour et ce que le professeur dit est très vrai, c'est moins difficile d'arrêter le cannabis que le tabac, mais après il y a cette notion d'habitude, d'être chez soi et de fumer qui là est très compliqué à arrêter finalement plus que la molécule en elle-même de THC. Et j'ai entendu parler de l'hypnose. Est-ce que c'est comme pour le tabac, est-ce que c'est quelque chose que vous me recommanderiez ?
Écoutez, je ne suis contre aucune technique qui est proposée. Il y a des gens qui, à l'occasion d'une hypnose, se détachent de la drogue. Il y en a d'autres, c'est l'acupuncture. Il y en a d'autres, etc. À mon avis, mais ça c'est un avis personnel, c'est davantage l'effet placebo. Mais enfin, c'est quelque chose, c'est un événement qui marque votre volonté.
Voilà.
Donc si on veut essayer l'hypnose, qu'on essaye l'hypnose, c'est pas dangereux.
Qui marque la volonté de guérir.
Voilà.
Mais dans le cas de Karen, donc le conseil, c'est finalement la même chose que d'essayer de se délivrer de l'emprise du tabac.
Tout à fait, tout à fait.
C'est le même cheminement.
Elle a certainement besoin d'avoir quelqu'un, d'avoir un interlocuteur, parce que c'est qu'elle décrit, c'est ce qu'on appelle la dépendance psychique. Elle est chez elle, elle a son petit intérieur, son petit, elle prépare son joint, elle l'allume, etc. Il y a toute cette petite gestuelle qui joue et
oui,
dont il faut se défaire. On appelle ça pompeusement les thérapeutiques cognitivo-comportementales, c'est-à-dire qu'on lui parle, on lui dit des moyens de cesser cette pratique.
Karen, votre témoignage est intéressant pour que tous les auditeurs de Sud Radio comprennent bien, et moi la première. Est-ce que vous avez un déclic quand vous dites je veux arrêter? Qu'est-ce qui vous pousse à arrêter?
Alors pour le coup, au-delà du côté joint, ce qui me pousse à arrêter, c'est tout simplement les conséquences sur mes poumons. Voilà, que ça soit la cigarette ou le joint, pour moi c'est la même chose. C'est moins le cannabis que effectivement les effets à long terme en termes de sport, de respiration et de souffle. Voilà, je commence à en voir concrètement les limites. Et puis comme je vous écoutais, comme le professeur a dit, c'est dans les urines pendant 3 semaines. Et c'est vrai que si un jour peut-être, enfin je ne le souhaite pas, mais s'il m'arrive un accident de voiture ou que je dois passer une visite médicale, ça reste quand même tout ça très problématique. Et je viens d'avoir 30 ans et je pense qu'il est temps de passer à autre chose.
Oui,
oui,
très beau témoignage. Merci Karen.
N'oubliez pas que ça coûte de l'argent aussi.
Mais oui, alors ça coûte combien, professeur? J'allais vous demander.
Dites-nous-le.
Karen.
Alors écoutez, moi c'est tout simple, je dépense pour acheter de ce qu'on appelle donc de l'herbe, je dépense entre 50 et 60 euros toutes les 3 semaines, un mois.
Ah oui, donc ouais. C'est un sacré budget.
Donc ça fait un gros budget puisque généralement je vais acheter tous les 3 mois et c'est toujours à coût de 150 euros.
Voilà, pour un joint par jour, hein.
Voilà,
c'est important
compter,
de le savoir.
Voilà, exactement, oui. sans compter évidemment les cigarettes que j'achète pour
et
pouvoir
voilà,
mettre
plus
dans
les
joints. Voilà, plus les cigarettes évidemment à ne pas négliger puisque finalement c'est ça le pôle de dépense le plus important.
Merci Karen pour votre témoignage très emblématique finalement hein, de ces 700 000 personnes qui fument en France, professeur. Ça a un coût pour la santé, ça a un coût pour le portefeuille. On accueille Jean-Philippe qui a une question et un témoignage à nous apporter. Bonjour Jean-Philippe, bienvenue sur Sud Radio dans Service Compris.
Bonjour Véronique, bonjour professeur Christophe Roff. Donc, je vous écoute depuis 13h20, donc. Et mon expérience que j'ai avec le cannabis, je vais vous parler du traitement de ma fille, en fait, qui est épileptique pharmacorésistante, qui a un syndrome de Dravet, et donc on lui donne du cannabis. Alors, quand on parle de cannabis, il faut bien se rendre compte que le cannabis, c'est une plante. Ce n'est pas une drogue, c'est une plante. Ce qui est une drogue, c'est le THC qui est fumé en forme de pétard ou chauffé en forme de space cake, etc. Donc nous, c'est la molécule qui nous intéresse, c'est le cannabidiol. Donc c'est une autre molécule du cannabis, puisque le cannabis, on doit le rappeler, c'est quand même 421, plus de 421 composants chimiques. À l'origine, dans le cannabis, la molécule de THC n'existe pas. C'est la molécule qui se trouve sous forme acide, et c'est une forme qui est non psychoactive et non euphorisante. Voilà. Enfin, ce que je vous ai dit.
Jean-Philippe, vous soignez votre fille qui est épileptique avec du cannabis, c'est ça ?
Avec du cannabis, tout à fait, oui.
Avec
le cannabidiol, parce que en fait, dans le cannabis, ce que vous expliquez pas à vos auditeurs, et ce que personne n'explique, c'est que le cannabis, c'est plus de 420 molécules qui se retrouvent en fait, selon la plante, en plus ou moins grande concentration. Donc là, ce que vous parlez, en fait, c'est du THC, la molécule psychoactive, qui entraîne en fait ce pourquoi les gens ils fument des pétards, c'est pour avoir l'euphorie du THC. D'accord. Moi, j'utilise du cannabis, sauf que mon cannabis, il contient que très peu de THC. Il contient moins de 0,2% de THC sur la plante entière. Par contre, il contient une autre molécule qui s'appelle le cannabidiol, en concentration.
Alors attendez, Jean-Philippe, laissez le professeur Christopher vous répondre, parce qu'il voit très bien où vous voulez en venir. Hein, ne vous inquiétez pas.
La forme d'épilepsie de votre fille est très particulière. C'est un syndrome très difficile à traiter, pour lequel on n'a pas un traitement correct. Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'épilepsie, mais je connais le sujet. Et effectivement, vous décrivez une pratique qui s'adresse à une zone très particulière de la pathologie. Il ne faut pas que les épileptiques...
C'est quand même un enfant sur 20 000. C'est quand même un enfant sur 20 000, le syndrome de Dravet. Il ne faut pas l'oublier.
Oui, non, mais tous les enfants ne sont pas épileptiques comme votre fille.
Les épileptiques sont entre 1 et 2% de la population générale.
Oui, mais je vous comprends.
Alors attendez, Jean-Philippe, ce n'est pas le sujet.
Par rapport à notre produit, quand on va voir un neurologue, qu'on lui dit qu'on lui donne du cannabidiol, qui demande qu'est-ce que c'est le cannabidiol, et qu'on lui explique ce que c'est le cannabidiol, on est vu comme des parents qui droguent notre enfant.
Non, mais attendez, Jean-Philippe, ça c'est un sujet. L'autre sujet, c'est de savoir si finalement c'est une bonne chose, professeur, de soigner certaines pathologies avec le cannabis.
Alors, le cas du syndrome de Dravet est très particulier. Je ne suis pas compétent en neurologie. Je sais que dans les épilepsies ordinaires, le cannabis est tout à fait déconseillé, car il peut même déclencher des crises. Pour le syndrome de Dravet, je ne sais pas. Alors, l'autre effet constant du cannabis, c'est la diminution des douleurs. On en a parlé au début
de l'émission.
Donc ça diminue les douleurs, mais on peut très bien utiliser d'autres antidouleurs. Ça fait une possibilité. Il y a des pays où on a autorisé le cannabis.
Et vous l'avez dit d'ailleurs, professeur, en préambule, on ne vit pas l'accoutumance et les effets du cannabis de la même façon, hein, suivant tout un chacun. On a vu que c'était pas la même chose quand c'était Karen qui témoignait ou quand c'était Antoine tout à l'heure.
Fait.